Huit. Eh ben, fit Eddie, vous en avez vu de toutes les couleurs, pas vrai? Du vert, du rouge et du bleu. Quand le vieux avait commencé son récit, Eddie espérait qu'il bâclerait les choses et qu'il pourrait aller faire un tour à l'église et jeter un coup d'œil à ce qui s'y planquait. Il ne pensait pas être touché, encore moins secoué. Pourtant, c'était le cas. Callahan ressentait des choses dont Eddie pensait que personne d'autre que lui ne les percevait. La mélancolie des gobelets en polystyrène qui roulent sur le trottoir, le désespoir rouillé de ce panneau de station-service, l'œil qui rôde dans l'heure qui précède l'aube, et surtout, le fait qu'il fallait parfois encaisser.
De toutes les couleurs ? « J'en sais rien, » fit Callahan avant de soupirer et de hocher la tête. « Ouais, je suppose. J'ai passé ma première journée dans les salles de cinéma et ma première nuit dans le parc de Washington Square. J'ai vu que les sans-abri se protégeaient du froid et du papier journal, alors j'en ai fait autant. Et c'est là la preuve que la vie, la qualité de vie, la texture de la vie, avait changé pour moi depuis l'enterrement de Danny Glick. Ça ne vous paraît peut-être pas clair pour l'instant, mais prenez patience. »
Il regarda Eddie et lui sourit.
Hé, ne vous inquiétez pas, fiston, je ne vais pas passer la journée à parler, ni même la matinée.
Allez-y, parlez comme bon vous semblera, fit Eddie.
Callahan éclata de rire. Grand merci! Si fait, grand merci, beaucoup. Ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que je m'étais recouvert le haut du corps avec le Daily News et que la manchette disait « Les frères Hitler frappent dans le Queens ».
Oh mon Dieu ! Les frères Hitler ! S'exclama Eddie. Je me souviens d'eux, des vrais crétins. Ils tabassaient d'ailleurs, c'était les Juifs. « Ou les Noirs ?»«
Les deux, » répondit Callahan. Et il leur faisait des croix gammées sur le front, au couteau. Ils n'ont pas eu l'occasion de finir la mienne. Un vrai coup de chance parce que, après ça, ils avaient plein de projets en tête qui allaient bien au-delà d'un passage à tabac. Et c'était des années plus tard quand je suis revenu à New York.
« Une croix gammée ?» dit Blunt.
Le sigle peint sur l'avion que nous avons trouvé près de River Crossing? Celui avec David Quick à l'intérieur?
Fit Eddie en dessinant une dans l'herbe du bout de sa botte. Les brins d'herbe se redressèrent presque instantanément. Mais Roland eut le temps de constater que, oui, la marque sur le front de Callahan aurait pu se transformer en croix gammée si on l'avait terminée.
« Ce jour-là, à la fin d'octobre 1975, reprit Callahan, les frères Hitler n'étaient rien d'autre qu'un gros titre qui me servait de couverture. Une partie de moi avait envie de se battre pour ne pas boire, pour essayer d'expier. En même temps, je sentais le sang de Barlow circuler dans mes veines, s'enfoncer de plus en plus en moi. Le monde n'avait plus la même odeur, il commençait à sentir mauvais. Le monde avait même l'air différent, tout se dégradait. Et ce goût, son goût, qui revenait se glisser dans ma bouche, un goût de poisson mort ou de vin pourri. Je n'avais aucun espoir de salut, ne croyez pas cela. Mais l'expiation n'a rien à voir avec le salut, de toute façon. Rien à voir avec le paradis. Il s'agit de laver sa conscience ici, sur Terre. Et ça ne se fait pas sous. Je ne me considérais pas comme un alcoolique, pas même à cette époque. En revanche, je me demandais s'il m'avait bel et bien transformé en vampire, si le soleil allait me brûler la peau, ou si j'allais me mettre à regarder le cou des femmes. Il haussa les épaules et eut un petit rire. Ou même celui des hommes. Vous savez ce qu'on dit de la prêtrise ? Que nous ne sommes qu'une bande de pédales qui passent leur temps à agiter la croix sous le nez des gens. Mais vous n'étiez pas devenu un vampire, conclut Eddie.
Pas même un vampire de type 3. J'étais juste souillé, à l'écart de tout, rejeté. À sentir en permanence sa pestilence et à voir le monde comme doivent le voir les créatures comme lui, dans les tons gris et rouges. Le rouge est la seule couleur vive que j'ai pu voir pendant des années. Tout le reste n'était qu'un murmure.
Il me semble que je cherchais une agence Manpower. Vous savez, le travail par intérim. J'étais encore plutôt acharné à ce moment-là. Et il faut dire que j'étais beaucoup plus jeune aussi. Je n'ai pas trouvé d'agence. En revanche, j'ai trouvé mon foyer, au coin de la 1ère avenue et de la 47e rue, non loin des Nations Unies.
Roland, Eddie et Susanna échangèrent un regard. Quel que fût ce foyer, il se situait à quelques mètres à peine du terrain vague.
Sauf qu'à l'époque, ça n'était pas un terrain vague, pensa Eddie.
Pas en 1975. En 1975, c'était probablement Tom et Jerry, charcuterie fine et artistique, spécialiste en réception. Il se surprit à regretter l'absence de Jake. Eddie se disait qu'il sauterait dans tous les sens s'il entendait une chose pareille.
« Ce foyer, c'était quel genre de boutique ?» demanda Roland.
Ce n'était pas du tout une boutique, mais un refuge, un centre alcoolisé. Je ne peux pas vous assurer que c'était le seul de Manhattan, mais en tout cas, il n'était pas légion. À l'époque, je ne savais pas grand-chose des foyers de ce genre, seulement quelques informations du temps de ma première paroisse. Mais au fil du temps, j'ai appris beaucoup. J'ai vu les deux facettes du système. À certains moments, j'étais ce type qui sert des bols de soupe à 6 heures du soir et qui distribue les couvertures à 9. À d'autres, j'étais celui qui buvait la soupe et qui dormait sous les couvertures. Après l'inspection anti-poux, évidemment. Il y a des foyers qui ne vous acceptent pas si vous empestez l'alcool, et il y en a d'autres où on vous accepte si vous affirmez que vous n'avez rien bu depuis au moins 2 heures. Et il y a quelques endroits, très peu, qui vous laissent entrer raide bourré, du moment qu'on peut vous fouiller à la porte et vous dépouiller de toute votre gnôle. Une fois cette formalité passée, on vous met dans une pièce verrouillée avec les autres types qui ont touché le fond. Vous ne pouvez pas vous défiler pour boire un verre en cachette si l'envie vous en prend, et vous ne risquez pas d'affoler vos compagnons de cellules moins imbibés si vous êtes pris de délirium très mince et que vous commencez à voir des insectes sortir des murs. Pas de femme dans la cellule. Trop de risques qu'elle se fasse violer. Ce qui explique en partie pourquoi il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui meurent dans la rue. C'est ce que Loupé disait souvent.
Loupé ? Demanda Eddie.
J'y arrive, mais pour l'instant, je me contenterai de dire que c'était l'architecte de la discipline liée à l'alcool, au foyer. Au foyer, c'est l'alcool qui était sous clé, pas les poivrons. On pouvait en prendre une gorgée si on en avait besoin, et à condition de promettre de rester calme, avec un sédatif pour faire passer. C'est pas recommandé d'un point de vue médical. Je suis même pas certain que c'était légal, puisque ni Loupé, ni Roman Magruder n'étaient médecins. Mais ça avait l'air de marcher. Un soir d'affluence, je suis arrivé sobre au foyer et Loupé m'a mis au travail. J'ai travaillé bénévolement pendant 2 ou 3 jours, puis Roman m'a convoqué dans son bureau, qui n'était en fait pas plus grand qu'un placard à balai. Il m'a demandé si j'étais alcoolique. J'ai dit que non. Il a voulu savoir si j'étais recherché par la police. J'ai répondu que non. Il m'a ensuite demandé si je fuyais quelque chose. Là, j'ai répondu que oui. Je me fuyais moi-même. Il m'a demandé si je voulais travailler, et là, j'ai fondu en larmes. Il a pris ça pour un oui. J'ai passé les 9 mois qui ont suivi, jusqu'en juin 1976, à travailler pour le foyer. Je faisais les lits, je m'activais en cuisine. J'accompagnais Loupé ou parfois Rowan dans leur tournée de levée de fonds.
J'emmenais des ivrognes aux réunions des AA dans la camionnette du foyer. Je donnais une goutte à des types qui tremblaient trop violemment pour tenir leur verre tout seul. J'ai repris la comptabilité parce que dans ce domaine, j'étais plus doué que Magruder, Loupé ou les autres types qui travaillaient là-bas. Ce ne furent pas les jours les plus heureux de ma vie. Jamais je n'irai jusqu'à dire ça, et le goût du sang de Barlow ne quitta pas ma bouche une seconde. Mais ce furent des jours de grâce. Je ne réfléchissais pas beaucoup. Je me contentais de baisser la tête et de faire ce qu'on me demandait. Je commençais à guérir. Au cours de l'hiver, je me suis rendu compte que je me mettais à changer. C'est comme si j'avais développé une sorte de sixième sens. Parfois, j'entendais des volées de cloches. C'était horrible et pourtant doux à la fois. Parfois, dans la rue, je me sentais entouré d'une grande obscurité alors que le soleil brillait. Je me rappelle avoir baissé les yeux pour vérifier que mon ombre était toujours là. J'étais certain qu'elle aurait disparu. Pourtant, elle était bien là. À chaque fois. Le cas-tête de Roland échangea un regard. Parfois, un élément olfactif se trouvait associé à ces fugues. C'était une odeur amère, comme des oignons forts mélangés à du métal en fusion. J'ai commencé à craindre d'être atteint d'une forme d'épilepsie.
« Vous êtes allé voir un médecin ?» demanda Suzanne.
« Non. J'avais peur de ce qu'il pourrait découvrir d'autre. Le plus probable me paraissait une tumeur au cerveau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la tête baissée et j'ai continué à travailler. Et puis un soir, je suis allé au cinéma, à Times Square. Il reprenait deux westerns de Clint Eastwood. C'est ce qu'on appelait des westerns spaghetti.
« Ouais ?» fit Eddie.
Soudain, j'ai entendu les cloches, le carillon, et j'ai senti cette odeur plus forte que jamais. Et le tout provenait d'en face de moi, sur la gauche. J'ai regardé, et j'ai vu deux hommes, le premier plutôt âgé et le second plus jeune. Je n'ai pas eu de mal à les repérer parce que les trois quarts des sièges étaient inoccupés. Le jeune homme se tenait tout près de l'autre, lequel ne quittait pas l'écran des yeux, mais avait passé le bras autour de l'épaule de son voisin. Un autre soir, j'aurais su quelle conclusion tirer de ce genre de scène, mais pas ce soir-là. Je les ai observés, et j'ai vu une espèce de lumière bleue foncée, d'abord comme un halo autour du jeune homme, puis les englobant tous les deux. Ça ne ressemblait à aucune autre lumière que j'aurais pu voir jusqu'alors. C'était comme l'obscurité que je sentais parfois dans la rue quand les cloches se mettaient à sonner dans ma tête, comme cette odeur. J'avais beau savoir que ces choses n'étaient pas là, pourtant elles y étaient bel et bien. Et puis, j'ai compris. Je ne l'ai pas accepté, ça n'est venu que plus tard. Mais j'ai compris. Le jeune homme était un vampire. Il s'interrompit, cherchant comment poursuivre son récit. Comment en venir à bout? Je crois qu'il existe au moins trois catégories de vampires dans notre monde. Je les appelle type 1, 2 et 3. Les types 1 sont rares. Barlow était un type 1. Ils vivent très longtemps. Il leur arrive de passer de longues périodes, 15, 100, parfois 200 ans, en hibernation profonde. Lorsqu'ils sont actifs, ils sont capables de créer de nouveaux vampires, ce que nous appelons les morts-vivants. Ces morts-vivants sont des types 2. Eux aussi pouvant créer d'autres vampires, mais ils ne sont pas rusés. Il se tourna vers Eddie et Susanna. Vous avez vu la nuit des morts-vivants? Susanna fit non de la tête, Eddie acquiesça. Dans ce film, les morts-vivants sont des zombies, visiblement décérébrés. Les vampires de type 2 sont plus intelligents que ça, mais pas tellement. Ils ne peuvent pas sortir à la lumière du jour. S'ils essaient, ils sont aveuglés, brûlés, voire tués. Je ne peux pas l'affirmer catégoriquement, mais je crois qu'ils ont une espérance de vie plutôt courte. Non pas que le passage d'humain vivant à vampire mort-vivant raccourcisse la durée de vie, mais les expériences que vivent les vampires de type 2 sont en général très périlleuses. Dans la plupart des cas, c'est ce que je pense, mais je n'en ai pas la preuve, les vampires de type 2 créent d'autres vampires de type 2, et ce, dans un périmètre assez restreint. Lorsqu'il atteint cette phase de la maladie, car il s'agit bien d'une maladie, le vampire de type 1, le roi des vampires, a en général déjà changé de décor. À Salem Slot, ils ont tué un véritable salopard, un des quelques 12 que le monde doit compter. Dans d'autres cas, les types 2 créent des types 3. Les types 3 sont comme des moustiques. Ils ne peuvent pas créer d'autres vampires, mais ils peuvent se nourrir de sang. Ils se nourrissent encore et encore.
Est-ce qu'ils peuvent attraper le sida ? Demanda Eddie.
Je veux dire, vous savez ce que c'est, pas vrai ? Oui, je le sais bien, mais je n'ai jamais entendu le terme avant le printemps 1983. Quand je travaillais au centre du phare à Detroit, mes jours en Amérique étaient comptés. Bien sûr, depuis 10 ans, on savait qu'il y avait quelque chose. En 1982, on a commencé à lire des articles sur ce qu'ils appelaient le cancer des homosexuels et en émettaient la possibilité qu'il soit contagieux. Dans la rue, les hommes l'appelaient « maladie de la baise » à cause des plaies qu'elle engendrait. Je ne crois pas que les vampires en meurent, ou même qu'ils tombent malades. Mais ils peuvent être porteurs, et ils peuvent le transmettre. Oh oui, j'ai d'excellentes raisons de le penser. » Les lèvres de Callahan tremblèrent un instant, puis il se ressaisit. En vous laissant boire son sang, ce démon de vampire vous a transmis le pouvoir de voir ces choses, dit Warrant.
Oui.
Toutes, ou seulement les 3, les petits. Les petits, répondit Callahan après réflexion. Puis il lâcha un rire bref et dénué de joie.
« Ouais, j'aime ça.
Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais rien vu d'autre que des 3, du moins depuis que j'ai quitté Jerusalem Slot. Mais il faut dire que les types 1 du genre de Barlow sont extrêmement rares et que les 2 ne font pas long feu. C'est leur faim même qui les conduit à leur perte. » Ils sont d'une voracité incroyable. Les types 3, quant à eux, peuvent sortir à la lumière du jour. Et ils se nourrissent essentiellement comme nous.
Et qu'avez-vous fait ce soir-là, dans le cinéma ?
Demanda Suzanne.
Rien.
Tout le temps de mon séjour à New York, mon premier séjour à New York, je n'ai rien fait avant avril. Je n'étais pas sûr, vous comprenez ? Ce que je veux dire, c'est que dans mon cœur, j'étais sûr, mais que ma tête refusait de suivre. Et n'oublions pas que tout le long, il subsistait ce petit détail. J'étais un alcoolique sobre. Et l'alcoolique est une sorte de vampire lui-même. Et cette partie de moi avait de plus en plus soif, tandis que j'essayais de toutes mes forces de renier ma propre nature. Alors je me suis convaincu que ce que j'avais vu, c'était un couple d'homosexuels en train de se faire des mamours dans une salle obscure, rien de plus. Et pour le reste, les cloches, l'odeur, le halo bleu foncé autour du jeune homme, je me suis dit que c'était dû à l'épilepsie, ou bien le contre-coup de ce que Barlow m'avait fait, ou bien les deux. Et pour ce qui est de Barlow, j'avais raison, évidemment. Son sang se réveillait en moi. Son sang voyait. Il n'y avait pas que ça, suggéra Roland. Callahan se tourna vers lui. Vous êtes allé va à Dash, père. Vous avez été appelé depuis ce monde-ci, par cette chose dans votre église, je pense. Sauf qu'à l'époque, elle ne se trouvait pas dans votre église.
Non, en effet, répondit Callahan en considérant Roland avec un respect prudent. « Comment le savez-vous ? Dites-le-moi, je vous prie. »
Mais Roland n'en fit rien.
« Continuez. Que s'est-il passé ensuite ?»«
Loupé, » fit Callahan.
9. Son nom de famille était Delgado. »
Roland ne manifesta qu'un instant de surprise, ses yeux s'élargirent. Mais Eddie et Susanna connaissaient suffisamment le pistolero pour savoir qu'il s'agissait là de quelque chose d'extraordinaire. En même temps, ils avaient pris l'habitude de ces coïncidences qui ne pouvaient pas en être, de ce sentiment que chacune n'était qu'un rouage de quelque grand mécanisme en mouvement.
Lupe Delgado avait 32 ans, ancien alcoolique, il était sobre depuis 5 ans, 5 années vécues 24 heures à la fois. Et il travaillait au foyer depuis 1974. C'était Magruder qui avait fondé le centre, mais c'était Lupe Delgado qui lui avait réellement donné vie et sens. Pendant la journée, il travaillait au service de maintenance de l'hôtel Plaza sur la 5e avenue. La nuit, il travaillait au foyer. Il avait grandement contribué à l'élaboration de la politique de la petite goutte. Et c'était lui qui avait accueilli Callahan à son arrivée, la première fois.
La première fois, je suis resté à New York, un peu plus d'un an. Mais en mars 1976, je me suis rendu compte que...
Il s'interrompit, cherchant désespérément les mots pour exprimer ce qu'il lisait tous les trois sur son visage. Il était devenu tout rouge, à l'exception de sa cicatrice qui, en comparaison, semblait luire d'un éclat presque surnaturel.
« Bon, d'accord. Disons qu'en substance, je me suis rendu compte que j'étais amoureux de lui. Est-ce que pour autant ça fait de moi un pédé, une tantouse, je sais pas. Il paraît qu'on a tous ça en nous, est-ce qu'on dit. C'est vrai pour certains, en tout cas. Et après ?
Tous les deux ou trois mois, on tombait sur un article dans le journal qui dénonçait la propension d'un prêtre à glisser la main sous la robe des enfants de cœur. Pour ce qui me concerne, je n'avais aucune raison de me considérer comme un homosexuel. Dieu sait que je n'étais pas immunisé contre un beau mollet de femme bien galbé, un prêtre reste un homme. Et il ne m'est jamais venu à l'esprit de harceler mes enfants de cœur. De même qu'il ne s'était jamais rien passé de physique entre Lupe et moi. Mais je l'aimais, et je ne parle pas seulement là de ses idées, de son dévouement ou de ses ambitions pour le foyer. Ce n'était pas uniquement parce qu'il avait choisi de faire son travail parmi les pauvres comme le Christ. Je ressentais également une attirance physique.
Callahan se tut de nouveau, sembla lutter, puis s'exclama. « Mon Dieu, qu'il était beau, mais beau !»«
Qu'est-il devenu ?» demanda Roland.
Un soir de la fin mars, il neigeait. Il est arrivé au foyer. On était bondés et les pensionnaires étaient agités. Il y avait déjà eu une bagarre au poing et on était en train de réparer les dégâts. On avait un type en pleine crise de délirium très mince et Rowan Magruder l'avait emmené dans son bureau où il lui servait du café coupé au whisky. Comme je crois vous l'avoir déjà dit, il n'y avait pas de cellule de dégrisement au foyer. Le dîner était terminé depuis une demi-heure et trois de nos volontaires n'avaient pas pu venir à cause des intempéries. On avait mis la radio et deux femmes dansaient. « C'est l'heure où les grands fauves vont boire, même aux eaux !» disait Lupe. J'ai retiré mon manteau et je me suis dirigé vers les cuisines. Je me suis fait alpaguer par un dénommé Frank Spinelli. J'avais promis de lui faire une lettre de recommandation et il s'impatientait. Et il y avait cette femme, Lisa, je ne sais plus quoi, qui avait besoin d'aide. Elle avait du mal à faire cette liste qui fait partie du programme AA, la liste de tous ceux à qui on a fait du tort. Il y avait aussi un jeune homme qui n'arrivait pas à remplir un formulaire de candidature pour un travail. Il savait un peu lire, mais pas écrire. Et puis, j'ai senti comme une odeur de brûlé. Ça a été la confusion totale. Et ça m'a plu. La confusion balaie tout, elle vous emporte. Mais en plein milieu, je me suis arrêté net. Il n'y avait ni carillon, et la seule odeur était celle de la nourriture brûlée. Mais la lumière était là, autour du cou de Lupe, comme un col. Et j'ai aperçu les traces. Des morsures, pas plus grosses que des têtes d'épingles. Je me suis immobilisé et j'ai dû vaciller parce que Lupe s'est précipité vers moi. et c'est alors que je l'ai senti, l'odeur, d'oignons forts et de métal bouillant. Quelques secondes ont dû m'échapper aussi, parce que, quand j'ai repris conscience de ce qui se passait, nous étions tous les deux près du buffet où on rangeait l'alcool, et Loupé me demandait quand j'avais mangé pour la dernière fois. Il savait qu'il m'arrivait d'oublier. L'odeur avait disparu, le halo bleu autour de son cou aussi, et les petites marques de morsure disparues elles aussi. À moins de tomber sur un vampire qui soit un vrai goinfre, les marques disparaissaient rapidement. Mais je savais. Je voyais pas l'intérêt de lui demander avec qui il était, quand et où. Les vampires, même les types 3, surtout les types 3 peut-être, ont leur technique de protection. Les sangsues sécrètent une enzyme dans leur salive qui fait que le sang continue à circuler pendant qu'elles le boivent. Cette enzyme anesthésie également la peau. Alors à moins de voir clairement la bête sur vous, vous n'avez aucune idée de ce qui vous arrive. Avec ces vampires de type 3, on dirait qu'ils ont dans leur salive une substance responsable d'une amnésie courte et sélective. J'ai trouvé une parade. J'ai dit que c'était juste un petit vertige à cause du chaud et froid en arrivant de l'extérieur, et puis aussi tout ce bruit, toute cette lumière. Il a accepté mon explication, mais m'a aussi dit de ralentir un peu. On a trop besoin de toi. Ça serait dommage de te perdre, Don. M'a-t-il dit. Et puis, il m'a embrassé. Ici. De sa main abîmée, Callahan effleura sa joue droite. Il faut croire que j'ai menti en disant qu'il ne s'était rien passé de physique entre nous, n'est-ce pas? Il y a eu ce baiser. Je me rappelle très bien cette sensation. Même le picotis de la moustache naissante au-dessus de sa lèvre. Là.
Je suis tellement désolé pour vous, dit Suzanne.
Merci, ma chère. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça représente pour moi. Combien c'est merveilleux de recevoir de la compassion de gens de son monde. C'est comme d'être exilé et de recevoir des nouvelles de sa famille, ou de trouver une source d'eau fraîche après des années passées à boire de l'eau rance en bouteille. Il tendit le bras, prit la main de Susanna et sourit.
Eddie eut l'impression que ce sourire avait quelque chose de forcé, voire de faux, et il lui vint soudain une idée effroyable. Et si le père Callahan sentait en ce moment même l'odeur d'oignon et de métal? Et s'il voyait ce halo bleu, non pas comme un collier autour du cou de Susanna, mais comme une ceinture autour de son ventre?
Eddie tourna la tête vers Brolant, mais ce dernier ne lui fut d'aucun secours. Le pistolero arborait son visage impassible.
Il avait le sida, n'est-ce pas?
Votre ami s'était fait mordre par un type 3 gay qui lui avait transmis la maladie. C'est ça?
Gay, soupira Callahan. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi, avec ce terme?
Il secoua la tête, abandonnant la fin de sa phrase.
Ouais, répondit Eddie. Les Red Sox n'ont toujours pas gagné la coupe et les homosexuels sont gays.
Eddie, lança Susanna.
Hey, répliqua Eddie. Tu crois que c'est facile d'être celui qui a quitté New York en dernier en oubliant d'éteindre la lumière? Parce que laisse-moi te dire que ça n'est pas facile. Et je me sens de plus en plus décalé moi-même.
Il se tourna vers Callahan.
Alors, c'est bien ce qui s'est passé, non?
Je crois, oui. Il faut que vous teniez compte du fait que j'en savais très peu moi-même à l'époque et que ce que je savais, je le refoulais de toutes mes forces. Avec une grande vigueur, comme aurait fait le président Kennedy. J'ai vu le premier petit, dans cette salle de cinéma, dans la semaine entre Noël et le jour de l'an 1975. Il lâcha un rire bref et rauque. Et maintenant que j'y repense, ce cinéma s'appelait La Gaîté. Surprenant, n'est-ce pas?
Il marqua une pause et les regarda tous les trois avec perplexité.
On dirait que non, n'avait pas du tout l'air surpris.
La coïncidence n'existe plus, Trésor, fit Suzanne. Ces derniers temps, on vit plutôt dans un réel à la Charles Dickens.
Je comprends pas ce que vous voulez dire.
Aucune importance, mon chou. Allez-y, continuez votre histoire.
Le vieux mit quelques secondes à retrouver le fil du récit, puis reprit.
J'ai donc vu mon premier type 3 à la fin décembre 1975, et dans les 3 mois jusqu'à cette nuit au centre où j'ai vu le halo bleu autour du cou de Lupe, j'en avais croisé une bonne demi-douzaine d'autres. L'un d'eux seulement était en chasse. C'était dans une ruelle dans l'East Village. Il y avait un type avec lui. Et lui, le vampire, il se tenait comme ça. Callahan se leva, étendit les bras comme s'il appuyait les paumes de ses mains contre un mur invisible. Et l'autre, la victime, était debout entre les bras tendus de l'autre face à lui, comme s'ils étaient en train de discuter ou de s'embrasser. Mais je le savais, que ce n'était pas le cas. Quant aux autres, j'en ai vu 2 dans un restaurant qui mangeaient tout seuls. Je voyais le halo autour de leurs mains, de leur visage, jusque sur leurs lèvres, comme du jus de myrtille électrique. Et cette odeur d'oignon brûlé qui flottait autour d'eux comme une sorte de parfum.
Callahan eut un sourire furtif.
Je me rends bien compte que toutes les descriptions que j'en fais se ressemblent. C'est que je n'essaie pas seulement de les décrire, j'essaie de les comprendre. J'essaie encore de comprendre comment ce monde parallèle a pu exister, ce monde secret depuis la nuit des temps, à côté de celui que j'avais toujours connu.
Roland, t'as raison, pensa Eddie. C'est le Vahadash, c'est forcément le Vahadash.
Il ne le sait pas, mais c'est bien ça.
Est-ce qu'il est l'un des nôtres pour autant?
Un membre de notre quatette. J'en ai vu un faire la queue à la Marine Midland Bank, reprit Callahan. C'était à la mi-journée, j'étais moi-même dans la file réservée au dépôt, et elle dans celle des retraits. Elle était baignée de lumière. Elle a vu que je la regardais et elle m'a souri. Pas une ombre de peur dans le regard. Il marqua une courte pause. Elle draguait.
Vous les reconnaissez à cause du sang de ce démon vampire qui coule dans vos veines, résuma Roland.
Mais eux, vous voient-ils?
Non,
répondit précipitamment Callahan. S'ils avaient été capables de me distinguer dans une foule, je n'aurais pas donné cher de ma vie. Quoi qu'il en soit, ils ont fini par entendre parler de moi. Mais c'était plus tard. Ce que je veux dire, c'est que je les voyais. Je savais qu'ils étaient là. Et quand j'ai vu ce qui était arrivé à Lupe, j'ai su ce qui s'en était pris à lui. Ils le voient, eux aussi. Ils le sentent. Peut-être même qu'ils entendent le carillon. Leurs victimes sont marquées. Et ensuite, il en vient de plus en plus, comme des papillons de nuit autour d'un réverbère, ou des chiens qui veulent tous pisser contre le même poteau. Cette nuit de mars, je suis sûr que c'était la première fois que Lupe se faisait mordre, parce que je n'avais jamais vu cette lumière autour de lui auparavant, ou ces marques dans son cou, presque comme des coupures faites par le rasoir. Mais ça s'est reproduit de nombreuses fois ensuite. C'était lié à la nature même de notre travail, toujours parmi des gens de passage. Peut-être que pour les vampires, boire du sang mêlé à de l'alcool, c'est l'extase à bas prix. Qui sait? Quoi qu'il en soit, c'est à cause de Lupe que j'ai tué pour la première fois, la première d'une longue série. C'était en avril.
10.
On est en avril et le fond de l'air s'est enfin décidé à prendre les odeurs et la douceur du printemps. Callahan est au foyer depuis 5 heures. Il a commencé par faire des chèques pour les factures de fin de mois, puis il s'est attelé à sa spécialité culinaire qu'il appelle ragoût de crapaud aux boulettes. En fait, il s'agit de bœuf en daube, mais cette appellation pittoresque l'amuse. Tout en surveillant la cuisson, il nettoie les grandes casseroles en inox, non pas parce qu'il en a besoin, l'une des rares choses dont le foyer ne manque pas, c'est bien d'ustensiles de cuisine, mais parce que c'est comme ça que sa mère lui a appris à faire en cuisine, nettoyer au fur et à mesure. Il prend une des marmites et se dirige vers la porte arrière. Là, il la maintient contre sa hanche, pendant que de l'autre main, il tourne la poignée. Il sort dans la ruelle dans le but de jeter l'eau savonneuse dans la grille d'égout. Et il s'arrête net. Devant lui se déroule une scène qu'il a déjà vue, dans le village. Mais ce jour-là, les deux hommes, tant celui appuyé contre le mur que celui penché en avant, les mains posées sur les briques, n'étaient que des ombres. Alors que ces deux-là, il les voit clairement, dans la lumière qui s'échappe de la cuisine. Et celui appuyé contre le mur, qui a l'air endormi, la tête penchée sur le côté, le cou offert, n'est pas un inconnu pour Callahan. C'est loupé. Bien que la lumière expose cette partie de la ruelle et que Callahan n'ait pas cherché à se montrer particulièrement discret, vu qu'il chantait une chanson de Lou Reed, Walk on the White Side, aucun des deux hommes ne l'a remarqué. Ils sont en transe. Celui qui fait face à Loupé a l'air âgé d'une 50aine d'années. Il porte un costume bien coupé et une cravate. À ses pieds, une mallette coûteuse Mark Cross est posée sur les bavés. L'homme est penché vers l'avant, la tête inclinée. Ses lèvres entrouvertes sont soudées au cou de Loupé sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il y a là? La jugulaire? La carotide? Callahan ne se souvient pas, et peu importe. Cette fois-ci, il n'entend pas le carillon, mais l'odeur est étouffante, tellement fétide qu'elle lui fait monter les larmes aux yeux et que son nez se met immédiatement à couler. Les deux hommes sont auréolés de cette lumière bleue sombre et Callahan la voit battre régulièrement, comme un pouls. C'est leur respiration, se dit-il. C'est leur respiration qui remue toute cette merde, ce qui signifie que c'est bien réel. Callahan entend un bruit très faible, un bruit de succion liquide, le genre de bruit qu'on entend dans un film quand un couple s'embrasse fougueusement avec passion. Il ne prend pas le temps de réfléchir, il pose la marmite remplie d'eau grasse et savonneuse, le choc métallique sur la pierre du sol n'interrompt pas les deux hommes, ils restent perdus dans leurs rêves. Callahan se dirige vers la cuisine à reculons. Sur le comptoir, il aperçoit le couperet avec lequel il a découpé le bœuf. La lame scintille dans la lumière. Il voit son visage qui s'y reflète et il se dit « Eh bien, moi, au moins, je n'en suis pas un. Je vois toujours mon reflet. » Puis, il referme la main sur le manche en caoutchouc. Il retourne dans la rue. Il enjambe la marmite d'eau sale. L'air est doux et humide. On entend de l'eau goûter quelque part. Une radio où beugle « Someone saved my life tonight ». L'humidité dans l'air dessine un halo autour du réverbère au bout de la ruelle. C'est le mois d'avril à New York, et à 3 mètres de l'endroit où se tient Callahan, qui récemment encore était un prêtre de l'Église catholique romaine, un vampire est en train de boire le sang de sa proie. De l'homme duquel Donald Callahan est tombé amoureux.
« Tu avais presque planté tes griffes en moi, chérie, » chante Elton John.
Et Callahan fait un pas en avant, brandissant le couperet. Il l'abat brutalement et il s'enfonce profondément dans le crâne du vampire. Son visage semble enflé sur les côtés. Il relève brusquement la tête comme un prédateur à l'approche d'une bête plus grosse et plus dangereuse que lui. Alors il se baisse, faisant mine de ramasser sa mallette, puis semble se raviser, décidant de s'en passer. Il se retourne et se dirige lentement vers le bout de la ruelle en direction de la musique. Elton John en est à « Quelqu'un m'a sauvé la vie ce soir. »
La chose a toujours le couperet planté dans le crâne. Le manche se balance d'avant en arrière au rythme de ses pas, comme une petite queue. Callahan voit du sang, mais pas l'océan auquel il s'attendait. Mais sur le coup, il est trop sous le choc pour se poser cette question. Mais plus tard, il se dira qu'il n'y a que peu de sang liquide et précieux dans le corps de ces êtres. Quelle que soit la nature de ce qui les maintient en vie, c'est encore plus magique que le miracle du sang. La plus grande partie de ce qui constituait autrefois leur sang a coagulé comme le jaune d'un œuf dur. Il fait encore quelques pas, puis s'immobilise. Ses épaules s'affaissent, sa tête pique vers l'avant, et Callahan la perd de vue. Et soudain, ses vêtements se ratatinent sur eux-mêmes et glissent sur le pavé luisant d'humidité. Comme en rêve, Callahan s'approche de la dépouille. Lupe Delgado est appuyé contre le mur, la tête en arrière, les yeux fermés, toujours prisonnier du sort que lui a jeté ce vampire. Le sang perle à son cou et coule en petits filets. Callahan regarde les vêtements. La cravate est toujours nouée, la chemise toujours sous la veste est glissée dans la ceinture du pantalon. Il sait que s'il faisait glisser la fermeture éclair du pantalon, il trouverait les sous-vêtements en dessous. Il saisit une des manches de la veste, surtout pour vérifier qu'elle est bien vide, non seulement à la vue, mais au toucher. Et la montre du vampire dégringole sur le pavé dans un cliquetis métallique, à côté de ce qui ressemble à une bague d'université. Il y a des cheveux, des dents, certaines plombées. Mais pour ce qui est de Mr. Mallet Mark Cross, rien d'autre. Callahan ramasse les vêtements. Elton John n'en finit pas de chanter qu'on lui a sauvé la vie ce soir, mais il faut dire qu'il n'y a rien d'étonnant en ça. C'est une chanson plutôt longue, du genre plus de 4 minutes. Callahan se passe la montre au poignet et la bague au doigt en attendant. Il emporte les vêtements à l'intérieur et, ce faisant, il passe devant Lupe, qui est toujours perdue dans son rêve. Et les trous dans son cou, devenus un peu plus gros que des têtes d'épingle, disparaissent progressivement. Par miracle, la cuisine est vide. Au fond, à gauche, se dresse une porte sur laquelle est écrit « Réserve ». Derrière, une petite pièce remplie d'étagères de part et d'autre. À l'entrée, une portière de grillage épais, verrouillée, pour décourager le chapardage. Les boîtes de conserve d'un côté, de l'autre, l'épicerie. Puis, les vêtements, les chemises dans un casier, les pantalons dans un autre. Puis, les robes et les jupes, les manteaux. Tout au fond de la pièce se trouve l'armoire marquée « Divers ». Callahan trouve le portefeuille du vampire et le glisse dans sa propre poche par-dessus le sien. Puis il déverrouille l'armoire et jette dedans les vêtements du vampire. C'est plus simple que de faire le tri, même s'il se doute que quand on découvrira les sous-vêtements à l'intérieur du pantalon, ça va ronchonner. Au foyer, on n'accepte pas les sous-vêtements déjà portés. On s'adresse peut-être à des gens venus du caniveau, lui avait dit Rowan Magruder, mais ça n'est pas une raison pour oublier ses principes. Peu importe les principes pour l'instant. Il faut encore s'occuper des cheveux et des dents du vampire. Sa montre, sa bague, son portefeuille... Et mon Dieu, sa mallette et ses chaussures. Elles doivent toujours être dehors. « Arrête un peu de te plaindre, se dit-il intérieurement, quand 95% ont disparu, disparu sans poser le moindre problème, comme le monstre à la fin du film d'horreur. Jusqu'ici, Dieu est de ton côté. Enfin, je dirais que c'est Dieu. Alors, arrête un peu de te plaindre. » D'ailleurs, il ne se plaint pas. Il ramasse les cheveux, les dents et la mallette et les emporte au bout de la ruelle en faisant gicler les flaques d'eau, puis il balance tout par-dessus la palissade. Après réflexion, il jette aussi la montre, le portefeuille et la bague. Pendant quelques secondes, la bague s'accroche à son doigt et il panique, mais elle finit par lâcher et s'envole. Plink ! Il y aura bien quelqu'un pour récupérer tout ça. On est à New York, après tout. Il retourne auprès de Lupe. Et c'est là qu'il voit les chaussures. Elles sont de trop bonne qualité pour être jetées et pourraient encore être portées des années. Il les ramasse et les rapporte dans la cuisine en les portant entre le pouce et l'index par les lacets. Et il est là, debout près de la cuisinière, les chaussures à la main, quand Lupe passe la porte. « Don !» dit-il. Il a la voix un peu pâteuse, la voix de quelqu'un qui vient de sortir d'un sommeil très profond. Il y a aussi une pointe d'amusement. Il désigne les chaussures que Callahan tient du bout des doigts. «
Tu t'apprêtais à les mettre dans le ragoût ?
Ça donnerait sans doute du goût, mais non, j'allais les ranger dans la réserve, répond Callahan.
Il est étonné par le calme de sa propre voix et son cœur. Il bat gentiment à 60 ou 70 pulsations à la minute.
Quelqu'un les a laissés derrière.
Et toi, tu faisais quoi ?
Loupé lui sourit, et quand il sourit, il est plus beau que jamais.
J'étais juste dehors à fumer une cigarette, il faisait trop doux pour rester à l'intérieur.
Tu m'as pas vu dehors ?
En fait, si, répond Callahan. Tu avais l'air perdu dans ton monde et j'ai pas voulu te déranger.
Tu veux bien m'ouvrir la grille de la réserve, s'il te plaît ?
Loupé s'exécute.
Elles ont l'air en bon état.
Des balis ?
Qu'est-ce qui lui a appris de laisser une paire de balis à des poivrons ?
Il a dû changer d'avis sur la couleur, suggère Callahan.
Il entend les cloches, cette douce mélodie empoisonnée, et il grince des dents. L'espace d'une seconde, le monde paraît miroiter.
Pas maintenant, se dit-il. Oh, pas maintenant, par pitié !
Ce n'est pas une prière, il ne prie plus beaucoup ces temps-ci, mais peut-être que quelque part, quelque chose l'entend, parce que le carillon s'évanouit. Le monde retrouve sa stabilité. Dans la pièce à côté, quelqu'un braille qu'il a faim. Quelqu'un d'autre jure, toujours la même histoire. Et il veut un verre, comme d'habitude, sauf que la pulsion est plus insatiable que jamais. Il n'arrête pas de repenser au contact du manche en caoutchouc dans sa main, et au poids du couperet. Le bruit et le goût qui lui revient dans la bouche. Le goût de mort du sang de Barlow. Ça aussi.
Qu'est-ce qu'il avait dit déjà dans la cuisine des Petrie après avoir brisé le crucifix que lui avait donné sa mère ?
Que c'était triste de voir la foi d'un homme échouer.
Ce soir, j'assisterai à la séance des AA, se dit-il en mettant un élastique autour de la paire de mocassins. Puis il les envoie sur le tas de chaussures. Parfois, les réunions lui sont utiles. Il ne dit jamais « je m'appelle Don et je suis alcoolique », mais parfois c'est utile.
Loupé s'est approché si près que lorsque Callahan se retourne, il sursaute.
« Tout doux, mon grand !»
dit Loupé en riant. Il se gratte négligemment la gorge. Les marques sont toujours là, mais au matin, elles auront disparu. Pourtant, Callahan sait que les vampires voient quelque chose, ou qu'ils le sentent, ou Dieu seul sait quoi encore. « Écoute, » propose-t-il à Loupé, « je pensais quitter la ville une semaine ou deux. Prendre un peu le large, pourquoi tu ne m'accompagnerais pas ? On pourrait aller dans les terres, pêcher. »
« Impossible, » répond Loupé. « Je n'ai plus de vacances à l'hôtel avant juin, et en plus, on est à court de main-d'œuvre ici. Mais si toi, tu veux y aller, j'arrangerai ça avec Rowan. Pas de problème. »
Loupé le regarda attentivement.
« Un peu de repos ne te ferait pas de mal. Tu as l'air épuisé
et nerveux. « Non, c'était juste une idée comme ça, » répond Callahan.
Et bien sûr, il ne va nulle part. En restant, il pourra peut-être veiller sur Loupé. Et à présent, il sait une chose. Les tuer n'est pas plus difficile que d'écraser un insecte sur le mur. Et ils ne sont pas encombrants une fois morts. Monsieur propre est là, comme ils disent dans cette pub à la télé. Loupé ira bien. Apparemment, les types 3 du genre de ce Mr. Mallet Mark Cross ne tuent pas leur proie, ils ne les modifient même pas. En tout cas, pas à sa connaissance, pas à court terme. Mais il sera là pour surveiller, c'est le moins qu'il puisse faire. Il va monter la garde. Ce sera un petit acte d'expiation pour Jerusalem Slot. Et tout ira bien pour Loupé.